C'était la nuit dernière, 71e concours de Miss Monde. L'heureuse élue de cette édition 2024 est tchèque. Et pour tout vous dire, elle s'appelle Kristina Piskova. L'occasion de nous interroger ce matin sur la beauté. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce qui est beau? Pourquoi? Comment le définir? Et comment se fait-il qu'elle puisse faire l'objet d'une compétition? Un grand entretien ce dimanche matin en compagnie de Marion Lourd. Nous avons le bonheur de recevoir deux grands spécialistes de cette question, de l'histoire des corps, de l'histoire de la beauté également, Elisabeth Azoulay et Georges Vigarello. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. On va longuement parler avec vous de cette question à partir de cet événement ou en tout cas de ce spectacle qui a lieu chaque année. J'invite les auditeurs qui nous écoutent à intervenir au 01 45 24 7000 pour échanger avec vous, vous poser toutes les questions qui leur viennent à l'esprit sur le beau justement et sur l'histoire éventuellement du beau, du laid. Puisqu'ils sont peut-être inséparables, ils peuvent aussi vous écrire sur l'application France Inter. Elisabeth Azoulay, vous êtes anthropologue, directrice d'un ouvrage collectif 100 000 ans de beauté, publié chez Gallimard et qui a été adapté en plusieurs épisodes pour France Télévisions. C'est diffusé tous les vendredis. Georges Vigarello, bienvenue. C'est un bonheur de vous revoir. Vous êtes un grand spécialiste de l'histoire des corps, auteur d'un livre qui avait fait date sur la question de la beauté. Vous avez publié une histoire de la beauté. Vous allez nous dire comment on peut faire justement l'histoire de ce qui apparemment est pour beaucoup un idéal. Directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, co-directeur du Centre Edgar Morin Monde. On va partir donc de l'élection de Miss Monde. C'était donc hier soir. Je vous vois sourire. On parle d'un concours de beauté. Alors même question à tous les deux pour commencer. Qu'est-ce que ça veut dire de constater que la beauté soit un objet de compétition ou puisse être un objet de compétition ? Elisabeth Azoulay.
Alors, oui, c'est en effet une drôle d'idée parce qu'en fait, on est tous incapables de définir ce qu'est la beauté. Si on était capable de la définir, on ne serait pas capable de penser la diversité, on ne serait pas capable de voir que la beauté change tout le temps dans l'histoire. Et donc, on est incapable de la définir. Alors, faire un concours sur ces bases-là, ben, ça suppose qu'il y a un entre-soi. Ça veut dire que, très souvent, il y a eu dans toute l'histoire humaine des sortes de compétitions, des rituels, où il fallait être la plus belle du village, etc.
On va y venir.
Voilà. Donc, mais c'était, on était entre-soi.
Même question, Georges Vigarello. Qu'est-ce qui fait que la beauté puisse être un objet de compétition ?
Ouais, écoutez, c'est très difficile. Je pense que le sport joue un rôle.
Ah oui ?
Le sport joue un rôle, à mon avis, dans la manière dont il organise des concours, dont il sélectionne les personnes, dont il essaie de passer des systèmes régionaux aux systèmes nationaux. Or, il se trouve que les concours de beauté, c'est la même chose. Mmh. Il se trouve que les concours de beauté en France et en Amérique sont nés dans les années 20. Autrement dit, ils sont quasiment contemporains du sport. Ils sont contemporains de la compétition. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est le problème du concours. Autrement dit, tout le monde est mis au même niveau, a priori. Et ensuite, ce sont les talents, les qualités, le travail, que sais-je, qui jouent un rôle. Ce qui renvoie d'ailleurs à un idéal démocratique. Ça, il faut pas l'oublier.
Ça renvoie à l'idéal démocratique, mais ou est-ce que ça veut dire qu'il y a un idéal de beauté universelle? Le concours de Miss Monde, c'est 112 femmes en compétition qui viennent de partout de la planète. Elles ont déjà été élus dans leur pays respectif, il existerait donc quelque chose comme une beauté qui mettrait tout le monde d'accord?
Non, je crois que ça renvoie à une croyance, ça renvoie quasiment à ce qu'on pourrait appeler un conte de fées. Autrement dit, ça renvoie à un idéal. Évidemment, cet idéal n'est jamais véritablement précisé, mais la compétition, en revanche, peut parfaitement exister. C'est-à-dire qu'on peut établir des lieux de comparaison et finalement des lieux de sélection et des lieux, je dirais, d'excellence. Ça, cet idéal est là. Alors, en revanche, la question qui me paraît beaucoup plus importante est la suivante. Vendredi, il y a eu la journée des femmes.
La journée des
femmes. Samedi, il y a eu cette élection. Or, cette élection, elle n'est pas si simple, parce que elle risque de renvoyer la femme à la seule qualité, à savoir la beauté. Alors que, quand on fait un tout petit peu d'histoire, on se rend compte au contraire que la femme a gagné immensément de qualité au-delà de la beauté. Donc c'est quand même ce paradoxe qui mérite d'être soulevé.
Alors, d'ailleurs,
Elisabeth Azoulay, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, d'ailleurs les concours l'ont intégré, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'ils demandent aux candidates de dire pour quelle cause elles s'engagent, de témoigner d'un certain oui. niveau de culture générale. Enfin, à la fin, on ne sait plus très bien ce qui est jugé, parce que en dehors du défilé en maillot de bain et en robe du soir, ou en costume local ou national, on leur demande de faire la preuve de d'autres qualités qui montrent bien la complexité de ce jugement.
Mais si on revient à cette compétition, je ne sais pas si on peut appeler vraiment ça comme ça, il y a quand même des choses récurrentes. Par exemple, on s'aperçoit que les femmes vénézuéliennes sont très souvent couronnées. Il y en a eu 6. En revanche, les Françaises, depuis 1953, il n'y en a pas eu. La dernière, elle s'appelle Denise Perrier. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire quand même que, par exemple, en ce qui concerne les Françaises, elles ne collent pas avec un espèce de critère, malgré tout, universel?
Il ne faut pas croire que ce concours soit totalement impartial. En fait, pourquoi est-ce qu'il faut pas le croire? Parce que d'abord, quand on voit l'endroit où ce concours est organisé, on s'aperçoit qu'il y a des lieux qui sont extrêmement récurrents. C'est un concours d'origine britannique. Ça s'est tenu une cinquantaine de fois en Grande-Bretagne sur toute la durée.
C'est les Américains surtout qui ont commencé.
Enfin, il y a eu plusieurs concours.
Mais la dernière française avait été sacrée à Londres en tout cas.
Oui. Donc en fait, et puis encore une fois, moi, il y a un photographe qui fait un travail super intéressant qui s'appelle Beat Strolley. Il s'amuse à photographier une rue dans les grandes villes. Et dans cette rue dans les grandes villes, quand on regarde la photo, on est incapable de dire qui est où. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que au cœur de nos villes, les gens se ressemblent tous. Et on s'aperçoit par exemple que certains candidats d'un pays, en fait, quand on pense, je sais pas, à des candidats sur la Belgique, etc., n'ont absolument pas ce qu'on pourrait imaginer être la beauté en Belgique ou une personne en Belgique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ces concours, déjà, les candidats sont marqués par une très grande diversité et les pays qui les présentent ne se réfèrent pas à un archétype national. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, Georges Vigarello, pas de critères universels, hein, c'est ce qu'on comprend dans ce que vous dites, Elisabeth Azoulay. Ça veut dire que les critères varient avec les lieux, avec le temps aussi. Par exemple, je pense à ces tableaux du 19e où on voit des femmes très rondes, très en chair, et puis aujourd'hui, on est plus dans la minceur.
Écoutez, c'est quand même cette question qui est la plus passionnante. Ouais. À savoir que d'une part, les critères évoluent avec le temps, et ces critères, ce sont pas seulement ceux de l'anatomie, ce sont aussi ceux de la façon dont la femme porte finalement l'habit. Et ce qui est très intéressant en histoire, par exemple, c'est de montrer que l'habit, pendant très longtemps, il a été contraignant, et aujourd'hui, c'est la morphologie qui l'emporte sur l'habit.
Reste le corset.
Voilà. Le corset a disparu. Et le corset a disparu grâce au féminisme, pas forcément grâce à l'invention de certains tailleurs. Et donc il y a un travail là, si vous voulez. Mais ce qui me paraît vraiment le plus intéressant, c'est d'une part effectivement la diversité, c'est le fait que, comme le disait Elisabeth, les concours intègrent l'histoire et demandent aux participantes de parler, d'intervenir, d'avoir des projets, la beauté of the purpose, vous voyez, un projet, etc. Bon, ils intègrent finalement l'histoire. Et en même temps, moi, effectivement, la conclusion, c'est deux choses. Un, diversité considérable, et deux, ne nous laissons pas emporter, c'est un mythe, c'est finalement comme un conte de fées, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est une forme de mettre en jeu un idéal, vous voyez, et pas nécessairement des critères absolus.
Vous parliez de ce photographe, parce qu'il y a une dimension qui est absolument essentielle quand on pense à la beauté, c'est le travail des artistes, la dimension esthétique, et vous avez écrit Georges Vigarello, par exemple, sur les canons de la beauté grecque dans la sculpture,
bien sûr.
Et toute l'histoire qui aboutit donc à un photographe comme Beat Strolley, qui est suisse et qui, en l'occurrence, va dans la rue, vous le disiez, et il cherche l'instant décisif où la beauté apparaît comme un événement extraordinaire. Et elle apparaît comme un événement extraordinaire dans la grande ville, dans l'anonymat de la grande ville. C'est très frappant ça, Georges Vigarello.
Ah bah, totalement.
Est-ce que la beauté doit toujours être une surprise, comme une apparition, pour reprendre les mots de Flaubert?
Si on prend les choses sur le mode complètement immédiat et sur le mode sensible, c'est une effraction. C'est une effraction. Le poème de Baudelaire sur la femme qui se déplace, qui bouge, qui joue sur son feston, etc. On le voit très bien. C'est une sorte de surprise. Mais en revanche, vous voyez, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que au-delà de ces dimensions un peu idéalisées, ces contes de fées, etc., il y a des changements très forts, qui sont très importants et qui renvoient à des déplacements de civilisation. Je prends un exemple. Pendant très longtemps, c'est le visage qui l'a emporté.
Oui.
On regarde le visage, on a les yeux, comme si l'âme sortait, vous voyez. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il emporte? c'est l'ensemble de la silhouette. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la silhouette doit être de plus en plus active, de plus en plus mobile, de plus en plus disponible, dans un monde qui est un monde technique, dans un monde qui est un monde de la vitesse, dans un monde qui est un monde du changement. Donc l'apparence traduit une exigence immédiate de ce qu'est la société d'aujourd'hui.
Et d'où l'importance de l'histoire et de pouvoir faire l'histoire. Évidemment. De ce qui pourrait pourtant apparaître comme un idéal. Beaucoup de questions au standard. Bonjour Marc.
Ah oui, bonjour.
Et bienvenue merci sur Inter. Vous nous appelez du merci. Pas-de-Calais.
Absolument, oui, oui. Loin de la Grèce antique dont je voudrais parler, parce que je trouve qu'il y a une expression des Grecs qui me paraît très très judicieuse, c'est le kalos kagatos aner. Le bon et bel homme.
Merci bon, pour la traduction.
Et je voulais simplement dire que ça me paraissait absolument essentiel d'allier les deux et que inversement, je prends l'exemple par exemple de Mozart. On peut pas dire que c'était un bel homme, mais paraît-il, il avait un regard absolument flamboyant qui laissait entendre qu'il était d'une beauté intérieure extraordinaire. Et inversement, un homme ou une femme peut être un ravissant ou une ravissante idiote. Voilà.
Alors, comment expliquer, merci Marc pour votre question, Elisabeth Azoulay, que les Grecs aient pu associer, 5 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, la beauté et la bonté?
Oui, d'abord, avec cet exemple, on voit que c'est pas le privilège des femmes que d'être jugées sur leur beauté, hein, et que on a tort de penser que c'est uniquement un tribunal masculin qui juge, c'est un jugement la beauté, hein.
Oui.
Qui juge des femmes. On a plein d'exemples, et la Grèce est un excellent exemple de ces concours qui concernaient principalement les hommes. Et effectivement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, dans tous ces concours, on a bien du mal à savoir ce qu'est la beauté, et très souvent, les enjeux d'une civilisation se traduisent dans le physique.
Alors justement,
on juge bien des tendances de la société, des rêves, des fantasmes sociétaux.
Une contribution à notre débat, Georges Vigarello, la question sera pour vous. Bonjour Khaled. Bonjour Khaled, vous
oui,
êtes
bonjour.
En ligne sur France Inter, merci de participer à notre débat de ce dimanche matin.
Et je peux vous poser une question, oui?
Évidemment.
Allez-y.
Oui, donc moi je voudrais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que la beauté est le plus beau des mensonges? Je ne veux pas développer pendant une heure, mais on est toujours attiré par la beauté en pensant que c'est quelque chose de bon et de positif, et ce n'est pas souvent le cas.
Bah merci, voilà. C'est une excellente question.
Magnifique question, c'est le fameux roman de Prévost, Manon Lescaut, où Manon Lescaut trahit une personnalité compliquée en ayant une apparence absolument magnifique. Bien sûr, c'est traditionnel. Mais je voudrais revenir quand même sur la question qui me paraît fondamentale aujourd'hui. Hommes et femmes se rapprochent, effectivement, et ils se rapprochent sur quoi? Ils se rapprochent sur l'élancement de la silhouette. Vous voyez, il y a des raisons sociales et culturelles. L'élancement de la silhouette, la rapidité, la disponibilité, qui renvoie totalement
en action, en fait.
Un phénomène de civilisation. Ce que le concours de beauté ne renvoie pas nécessairement. Autrement dit, il y a un concours de beauté avec cette image totalement magnifique de fées, etc. Et il y a une réalité qui, elle, est au cœur de notre civilisation.
L'élancement de la silhouette, il y a la question du naturel aussi, Elisabeth Azoulay, parce que le discours ambiant valorise beaucoup le naturel, et même un maquillage réussi, c'est souvent un maquillage où on a l'impression que quelque chose de naturel. Mais est-ce qu'un physique considéré comme beau, c'est pas finalement le contraire d'un physique naturel? Un physique qui est transformé, qui est travaillé, on pense aux Olmèques, à la civilisation Olmèque, où ils allongeaient les têtes de façon...
C'est cité dans le livre d'Elisabeth.
Voilà, oui. Ils font un dispositif pour allonger les têtes des gens, parce que c'est ça qui est considéré comme beau. Un physique beau, c'est naturel ou c'est au contraire c'est travaillé?
En fait, il faut toujours se méfier de ce mot nature, parce que on a un imaginaire, des idées, etc. Et que même lorsqu'on parle de nature, il y a une construction derrière.
On est toujours dans la culture.
Bien sûr. Surtout que là, on sort d'un spectacle qui est quand même l'univers du kitsch, hein, avec. Donc
oui,
on est avec
des robes de fées.
Et tous ces concours, en fait, sont le fait de très grands groupes de presse. Ou de groupes de médias,
des sponsors, hein,
avec des sponsors, enfin c'est toute une machine où toute l'évolution des médias y participe. Donc on est dans une mise en scène qui est très très loin de la peau de bête et de l'eau fraîche, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas du tout là-dedans. Et effectivement, une des variantes de la beauté, c'est de flirter avec cette idée de naturel. Et dans ce flirt, il y a des gestes invisibles, ce qui ne veut pas dire que les gestes n'existent pas.
Mmh. Et Georges Vigard,
pour revenir à votre question, je crois que le grand texte qui inaugure en quelque sorte la modernité, c'est le texte de Baudelaire sur le maquillage. Mmh. Et Baudelaire est le premier à dire, non seulement il y a une légitimité à se maquiller et à se construire, mais en plus on ne peut pas exister sans se construire. Et se construire, c'est la conquête de l'individualisation, c'est la conquête d'une réalisation de soi. Et ça, je trouve que c'est un texte absolument fondamental, qui est magnifique, qui date de 1859 et qui introduit notre période aujourd'hui.
Et qui est un éloge du maquillage.
La mise en scène, elle est partout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux.
Bien sûr.
Et donc du coup, est-ce que la place de la beauté a changé ?
Alors, avec un danger qui est magnifiquement montré dans le livre de Vanina Reichmann, Beauté fatale. Ce danger, c'est le suivant. Instagram vous permet de mettre en scène votre propre silhouette, personne, etc. Et la tentation permanente, puisque vous la mettez en scène, puisque vous voulez la corriger d'un clic, la tentation permanente, c'est de la corriger.
Oui.
Et donc, à ce moment-là, vous entrez dans une mécanique qui est évidemment sulfureuse.
Maintenant, on indique sans retouche, par exemple,
exactement,
comme si c'était extraordinaire.
C'est très même sur le corps lui-même, il y a la métaphore de Photoshop, en fait.
Mais vous, vous avez mené un travail encyclopédique, Elisabeth Azoulay, puisque ces 5 tomes qui couvrent 100 000 ans d'histoire des hommes, des femmes et de la beauté, de leur rapport à la beauté. Il y a quelque chose qui était passionnant à lire dans le journal Le Monde, daté d'aujourd'hui. C'est... on regarde la France, on regarde le salon de l'agriculture, Miss France 2024 oui. arrive et c'est une foule oui. qui se précipite vers elle, partout où elle va lorsque elle sillonne le pays, c'est la rencontre d'une femme et d'un peuple, c'est comme ça que c'est raconté et c'est même plus fort comme relation que la relation qu'on peut entretenir avec les politiques et c'est 9 millions de téléspectateurs chaque année, la beauté elle est comme une forme d'élection. C'est une élue de la République, d'ailleurs, elle a une écharpe. Je vais un peu trop loin dans la spéculation,
c'est
pas, Elisabeth Azoulay ?
Non, c'est tout à fait vrai. C'est à la fois une princesse et une élue.
Pour un an. Son règne dure un an.
Son règne dure un an.
On se promène avec les politiques, donc Xavier Bertrand, dans les allées du salon de l'agriculture.
Vous avez lu l'article,
bien sûr.
Et Xavier Bertrand est éclipsé par la beauté de Miss France.
Absolument, Gilles. Mais je veux dire deux choses. Ce qui est quand même très surprenant concernant Eve Gilles, c'est qu'il y a une centration sur le fait qu'elle a les cheveux plus courts.
Mais oui.
Oh, ça correspond pas parfaitement aux exigences d'aujourd'hui, si vous voulez. Je répète, légèreté, facilité, etc.
Mais elle est harcelée pour ça sur les réseaux sociaux.
Voilà. Et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est effectivement qu'elle apparaît comme une sorte de princesse, parce que je crois que ça renvoie à un idéal qui est porté par chacun, qui porte sur quelque chose de la perfection inatteignable, et ceux qui sont les porteurs de cela sont vraiment des êtres privilégiés.
Il faut malgré tout, pour être élu Miss France, faire au minimum 1m70, il faut pouvoir porter la même robe avec le moins de retouches possible. Il y a des canons de la beauté,
bien sûr.
Évidemment. La question, c'est qui les détermine ?
Bien sûr, bah, c'est
Elisabeth Azoulay, c'est la société ou c'est
les membres du jury qui reflètent fidèlement des fantasmes collectifs.
Exact, oui.
Georges Vigarello, vous êtes aussi un historien du sport et on voulait vous interroger sur les Jeux Olympiques de 2024, les Jeux Olympiques de Paris qui font aujourd'hui la une du journal Le Quotidien, Le Parisien aujourd'hui en France. Pourquoi est-ce que les JO sont si peu l'objet d'enthousiasme en France alors qu'ils sont normalement la grande fête du sport et le spectacle le plus mondialisé à la télévision?
Oui, vous avez absolument raison. Je pense qu'il y a une raison qui est assez obscure et qui porte sur la crainte de l'encombrement, la crainte d'être assailli en quelque sorte par une présence étrangère excessive. Non pas que l'étranger soit condamné, mais c'est plutôt la quantité en l'occurrence qui est inquiétante. Quand vous discutez avec les chauffeurs de taxi, ils disent « Ah non, moi je peux pas continuer pendant les JO, etc. » Vous voyez, il y a cette crainte-là. En revanche, ne l'oublions jamais, revenons à la question de la perfection,
oui.
Les JO séduisent aussi précisément parce qu'ils sont porteurs de quelque chose qui est lors d'une perfection quasi inatteignable. Et à ce moment-là, ils sont évidemment exemplaires.
Elisabeth Azoulay, sur cette question de la perfection, est-ce que les critères de beauté ne sont pas, c'est peut-être une bonne nouvelle pour nous, en train de s'assouplir? On a l'impression, oui. En tout cas, que dans les magazines féminins, et pas seulement, il y a la mode des cheveux gris, les peaux noires qui sont montrées plus souvent, la vague body positive qui valorise des corps XXL. On est sorti justement des canons de beauté classiques, même si Eve Gilles se fait harceler sur les réseaux parce qu'elle a les cheveux courts.
Oui, il y a encore du boulot à faire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que tous ces concours de beauté ont passé leur temps à se réformer. se réformer pour accepter des femmes qui étaient mariées, qui avaient eu des enfants, qui avaient des tatouages, etc. Donc ça montre bien que tous, ils voudraient bien fixer une fois pour toutes une sorte d'idéal qui leur permettrait d'avoir une routine, mais c'est pas possible, puisqu'ils sont rappelés par la société à chaque fois.
Georges Vigard et Lou Damon. Oui,
ça renvoie vraiment aux questions d'aujourd'hui. Autrement dit, la beauté est intéressante parce qu'elle reflète les exigences d'aujourd'hui. Or, qu'est-ce qui est reflété dans ce qui vient d'être dit par Elisabeth ? C'est la diversité et l'individualisation. Des sociétés qui favorisent l'individualisme favorisent la diversité.
Et il y a aussi un prix de la beauté qui est reflété par ces concours. Elisabeth Azoulay, les concours de beauté sont aussi du business. Donald Trump, par exemple, a possédé une franchise. C'est oui. aussi le cas du mogul Rupert Murdoch. Et dans l'un de vos livres sur les 100 000 ans de la beauté, il y a un texte écrit par un anthropologue américain sur la foire aux Miss, où il évoque l'un des plus grands économistes, Maynard Keynes. Pourquoi ?
Mais je trouve
parce
ça très...
qu'on est comme à la bourse.
Je trouve ça très intéressant. C'est qu'en fait, les gens, quand ils sont jurys d'un concours comme celui-ci, ne cherchent pas forcément la personne qui leur plaît, mais celle qui a le plus de chances d'être élue et de gagner le concours suivant. Et donc, en fait, c'est comme les spéculateurs.
Comme sur un marché spéculatif.
On choisit la valeur montante.
Comme à la corbeille.
Absolument.
C'était passionnant. Merci infiniment, en tout cas, à tous les deux d'avoir été les invités du Grand Entretien d'Inter ce matin. Elisabeth Azoulay, je rappelle donc les 5 tomes de ces 100 000 ans de beauté que vous publiez chez Gallimard, adaptés pour France Télé. C'est diffusé tous les vendredis. Georges Vigarello, on vous trouve dans toutes les bonnes librairies avec des études passionnantes sur le corps, la beauté et tant d'autres choses. Notamment la fatigue.
N'en jetez plus.
Donc bon repos et bon dimanche.